Vous écoutez On lit pour vous.
Gros plan sur la maternelle. Un texte de Maxime Bilodeau paru le 4 avril 2024 dans Québec Science. À peine arrive-t-il sur les bancs d'école que les tout-petits jouent leur avenir. Des chercheuses s'intéressent à ce moment qui marque un tournant. Les activités éducatives vécues entre 0 et 5 ans exercent une influence majeure sur le devenir de l'enfant. C'est pourquoi le gouvernement du Québec a déployé la maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé dès 2013, avant de commencer à élargir l'offre partout dans la province en 2020. Le but, augmenter le taux de diplomation et améliorer la réussite scolaire. Or, les enseignantes et enseignants catapultés à la tête de ces classes sont souvent mal outillés. Ces nouveaux postes sont en grande partie occupés par des personnes qui disposent de moins d'expérience, explique Maude Roy-Vallière, professeure au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Chicoutimi, UQAC, qui a consacré une thèse à la qualité éducative dans les milieux préscolaires. Qui plus est, le programme d'éducation préscolaire 4 ans officialisé en 2017 n'a été rattaché à celui de la maternelle 5 ans qu'en 2021. La chercheuse a elle-même enseigné en maternelle 4 ans avant son doctorat. Sa comparaison des maternelles 4 ans avec les centres de la petite enfance, CPE, dont les effets positifs sur les bouts de choux sont avérés dans la littérature scientifique, prend donc ses racines dans des questionnements personnels. Le verdict est implacable. La qualité éducative en maternelle 4 ans ressemble beaucoup à celle qu'on trouve en CPE. La qualité des interactions entre personnes enseignantes et élèves est assez semblable. Cette dernière est peu influencée par les différences d'ordre structurel, ratio adulte-enfant, par exemple. Analyse Maude Roy-Vallière. Les parents peuvent donc envoyer leur progéniture dans l'un ou l'autre sans craindre pour son développement. Pensée algébrique. Preuve que la petite enfance est un moment charnière, la réussite en mathématiques pourrait s'y jouer. C'est du moins ce que soupçonne Nathalie Anwanter-Couellard, professeure au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec en Outaouais, UQO. Entre le primaire et le secondaire, plusieurs jeunes peinent à passer de l'arithmétique à l'algèbre, souligne-t-elle. Des blocages se manifestent même dès l'âge de 8 ans. C'est comme si la pensée des préadolescents et préadolescentes n'était formatée que pour les opérations élémentaires, addition, soustraction, etc. Ils ont de la difficulté à comprendre que 1 plus 5 est équivalent à 3 plus 3, illustre la didacticienne des mathématiques. Pourtant, ils en sont capables. Des recherches antérieures démontrent qu'ils sont en mesure de travailler avec le concept d'équivalence mathématique, qui est un type de raisonnement associé à la pensée algébrique. Avec des collègues de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, elle et son équipe ont entrepris de faire émerger ce potentiel. Pour ce faire, ils mettent à l'épreuve des apprentissages ludiques axés sur les relations mathématiques auprès de volontaires de 5 ans de l'Outaouais. Les premiers résultats de l'étude, toujours en cours, sont encourageants. L'analyse des gestes, des discours et des interactions dans ce contexte révèle que certains enfants vont beaucoup plus loin que ce que l'on aurait cru, constate-t-elle. C'était « Gros plan sur la maternelle », un texte de Maxime Bilodeau paru le 4 avril 2024 dans Québec Science.
Comment échapper au blurring? Un texte de Maude Goyer paru le 21 mai 2024 dans La Presse. Souffrez-vous de blurring? Le phénomène n'est pas nouveau, mais selon plusieurs experts, il atteint des sommets depuis quelques années. Jamais les frontières entre la vie professionnelle et la vie personnelle n'ont été aussi floues, voire inexistantes. Le terme « blurring » ou « flou » en français, aussi appelé brouillage professionnel, est apparu au début des années 2000, mais il est revenu en force dans le langage des travailleurs depuis la pandémie. Je définis le blurring comme l'inhabilité à gérer ses rôles dans différentes sphères, entre la sphère professionnelle, familiale et celle hors travail, liée aux loisirs et au temps personnel, explique Olivier Kaya, professeur à l'école de gestion de l'Université de Sherbrooke. L'intensification du travail, l'utilisation des outils technologiques comme le téléphone intelligent et le télétravail ont renforcé le blurring. Les frontières entre travail et vie personnelle sont poreuses et perméables. On peut tous travailler 24 heures sur 24, s'exclame Nicolas Chevrier, psychologue du travail. C'est aux individus de décider, de mettre en place certaines stratégies. Sinon, on risque une surexposition au stress qui entraîne une détérioration de la santé mentale. Et ça, c'est une voie royale pour l'épuisement. Contrer l'hyperperformance. Les gestionnaires ont eux aussi un rôle à jouer. Ils doivent être attentifs au risque de glissement vers le blurring et le surmenage. Oui, cela demande une nouvelle façon de mener et de gérer, croit Angelo dos Santos Soares, professeur au département d'organisation et ressources humaines de l'UQAM. Il faut rompre avec la philosophie du taylorisme du début du XXe siècle où il y a une hiérarchie entre les gens qui savent et ceux qui exécutent, dit-il. Il faut maintenant des gestionnaires qui comprennent le contexte du travailleur et s'y attardent, qui font preuve d'empathie et de compassion. En ce sens, se demander si la charge de travail est adéquate et si le travailleur a suffisamment d'autonomie dans l'accomplissement de ses tâches est crucial, souligne M. Dos Santos Soares. Il faut se demander si on n'est pas en train d'encourager une culture d'hyper-performance et se soucier que ça n'arrive pas. Le patron doit prendre soin des employés dans un sens large. On appelle cela le travail du « care ». Évidemment, le contexte global favorise le blurring. Selon Olivier Kaya, la pression sociale de travailler beaucoup, d'avoir un gros agenda, est réelle. Il y a une pression, dit-il, à montrer qu'on est dédié. Je pense entre autres aux signaux de visibilité dans le numérique. On montre qu'on est bien là, en ligne, qu'on a un comportement de bon citoyen corporatif. Un pied dans les courriels, décrit par la neuroscientifique Sonia Lupien comme des armes de destruction massive dans son dernier livre, et l'autre dans la vie à la maison. Le travailleur fragmente son attention et sa concentration comme jamais. Les conséquences sont immenses. On a l'impression de travailler en fou, mais on n'accomplit pas tant de choses, dit M. Kaya, donc le stress augmente, mais la productivité baisse. Reprendre le contrôle. Olivier Kaya évoque une idée. Bloquer dans son horaire du temps de travail personnel équivalent au temps pris, par exemple, à une réunion. De cette façon, on limite la sensation de perdre le contrôle de notre agenda, précise le professeur. Il faut apprendre à forcer le travail profond. Parler de nos attentes et de nos besoins aux personnes avec qui nous travaillons de près est aussi une stratégie gagnante, avance-t-il. Par exemple, on peut dire que la réception de courriels inutiles nous rend malheureux. Se garder un temps de récupération où le cerveau n'est occupé à rien est tout aussi important. On a développé une dépendance aux appareils technologiques, note Angelo dos Santos Soares. C'est bien d'instaurer des moments de déconnexion, de se donner le droit de ne pas répondre aux courriels ni au téléphone. Pour Nicolas Chevrier, prendre des pauses régulièrement. Réserver un espace physique pour ses activités professionnelles si on travaille de la maison. S'interroger sur son rapport aux technologies et chercher l'équilibre dans la conciliation travail-famille font partie d'une saine hygiène de vie au travail. Certaines personnes n'ont pas de problème avec le blurring, dit-il, mais d'autres doivent se discipliner et se mettre des balises. C'était « Comment échapper au blurring », un texte de Maud Goyer, paru le 21 mai 2024 dans La Presse.
Des œuvres profondément ancrées dans le territoire. Une chronique de Sylvie Mousseau, parue le 30 mai 2024 dans l'Acadie Nouvelle au Nouveau-Brunswick. Cette semaine, on plonge dans l'univers bouleversant de l'autrice Emmanuelle Pierrot avec son premier roman qui se déroule au Yukon. En musique, le chanteur gaspésien Guillaume Arsenault débarque avec un nouvel opus folk organique. La version qui n'intéresse personne, Emmanuelle Pierrot. Quel roman bouleversant! On n'en sort pas indemne. Une œuvre coup de poing qui chavire l'esprit. L'autrice ne fait pas dans la dentelle. C'est l'histoire de Sacha et Tom qui sont frères et sœurs, qui quittent leur famille dysfonctionnelle et leur ville pour aller sur un road trip vers l'ouest. Au début du monde, il n'y avait que Tom et moi. On ne s'est jamais rencontrés. On s'est toujours connus. Ce n'est pas quétaine, c'est vrai. On est nés ensemble, comme deux incarnations d'une même entité, un alien bicéphale non vivable. Ainsi s'ouvre ce roman atypique, autant dans le contenu que dans le style. En route vers le bout du monde, Sacha et Tom aboutissent à Dawson City au Yukon, le pays de la ruée vers l'or. Ils y font la rencontre de toute une communauté hétéroclite de marginaux, de folk-punk, brisés par la vie. De jobs d'été à des hivers au chômage, leur quotidien est fait de rencontres sociales, de musique, de nuits blanches, de liaisons passagères, de consommation d'alcool et de substances illicites. Ils aiment la vie, même si ça ne paraît pas toujours. Assoiffés de liberté, Tom et Sacha vivent dans des cabanes insalubres ou dans des tentes. Parmi leurs nouveaux amis, Rob, un néo-brunswickois qui est recherché par la justice. Leur lieu de rassemblement est l'hôtel-bar de la place Le Pit. Comme lecteur, on entre dans cet univers à la fois déstabilisant et hallucinant que l'on découvre avec curiosité. Le couple d'amis adopte une chienne louve, Luna, qui devient une véritable alliée pour Sacha. Ensemble, elles vivent des moments de grâce. Vers le milieu du roman, l'histoire bascule. Après nous avoir décrit avec justesse et une pointe d'humour la vie de ce groupe de marginaux, un peu comme une chronique, le récit prend une autre tournure plus violente. Sacha tombe amoureuse de Cosmas et Tom se sent trahi. Elle sera alors piégée et on assiste à sa descente aux enfers. Et pourtant, elle croyait qu'elle pourrait vivre libre dans ce coin reculé du monde au confluent de la rivière Klondike et du fleuve Yukon. De coucher avec qui elle veut, d'aimer qui elle veut, à visage découvert et sans honte. Or, la honte la rattrape et le groupe se retourne contre elle, estimant qu'elle est une pute, une profiteuse qui mérite d'être punie. Pendant que la pandémie frappe, elle se sent de plus en plus isolée, devant les Dawsonites qui veulent faire son procès. Ils s'en prendront à elle et à sa chienne. Sacha tente tant bien que mal de réagir et de se défendre, mais la victime devient rapidement l'accusée. Emmanuelle Pierrot jette un regard lucide sur les forces qui poussent des groupes de personnes à commettre des actes terribles, convaincus d'exercer leur justice. Dans cette ère de fausses nouvelles, de conspirationnistes, ce roman fait écho en quelque sorte à ces groupes qui posent souvent un jugement trop rapide. Citation. Pendant 8 ans, je m'étais obstinée à croire que Dawson était le paradis, en dépit de preuves du contraire de plus en plus nombreuses. Ici, comme n'importe où ailleurs, il y avait du conformisme, de la misogynie, de la haine. Fin de citation, énonce la narratrice. L'autrice écrit dans un style vivant, naviguant à travers plusieurs registres de langue. Le style est parfois cru, utilisant la langue populaire surtout dans les dialogues, truffés d'anglicisme et d'anglais. Une plume qui colle à la réalité. J'ai adoré ce roman plein de contrastes et de paradoxes qui s'inscrit dans la nordicité et qui nous brasse au plus profond de l'âme. Ce premier roman d'Emmanuelle Pierrot a remporté plusieurs prix, dont celui des libraires du Québec. La romancière qui a grandi en banlieue de Montréal a déjà vécu à Dawson City. Le Quartanier, éditeur, 2023. Les plantes qui continuent de pousser même quand tu dors, face A, Guillaume Arsenault. Inspiré d'un rêve, ce nouvel opus de 5 chansons poétiques ancrées dans le territoire de l'auteur-compositeur-interprète gaspésien évoque la nature, la mer, la forêt sur des sonorités folk organiques. Il y a une belle délicatesse. Dans ce rêve, il était dans un camp de chasse avec Philippe Braque qui lui faisait découvrir des chansons et des artistes de sa collection de vinyles. Le titre du micro-album est tiré de ce rêve. Guillaume Arsenault, qui a un studio à Carleton-sur-Mer, une shop à chansons comme il le dit, offre avec cette nouvelle collection une fenêtre sur son intimité. Il aborde la relation qui reste avec l'autre après une rupture, en écho, sa déprime qu'il met en image avec des métaphores automobiles, ça tourne pas rond, et il rend hommage à sa mère dans « Maman, maman, maman ». Je retiens, entre autres, les pièces « Floues » sur l'incertitude et « Ne m'enlevez pas mes outils » sur la perte d'autonomie de son père. Ces œuvres m'ont particulièrement touchée. Citation « J'ai besoin de mes outils pour réparer le temps, me fabriquer des rêves et les fixer au jour. J'ai besoin de mes outils pour refendre l'enfer et en faire des éclats de paradis. » Fin de citation. L'artiste offre des chansons bien ficelées sur des arrangements inventifs, planant où la guitare croise le violoncelle, le violon, le ukulélé, le banjo, l'harmonica et les cuivres. Une collection musicale qui s'écoute en boucle. André Lavergne et Éric Dion du duo Dans le Shed ont collaboré à cet album qui rassemble plusieurs musiciens. Multi-instrumentiste plusieurs fois primé, Guillaume Arsenault œuvre sur la scène musicale depuis plus de 20 ans avec 6 albums à son actif. C'était « Des œuvres profondément ancrées dans le territoire », une chronique de Sylvie Mousseau, parue le 30 mai 2024 dans l'Acadie Nouvelle au Nouveau-Brunswick.
Avec les changements climatiques, les risques de maladies infectieuses s'étendent vers le nord. Un texte de Noah Chen de la presse canadienne, paru le 27 mai 2024 dans Le Devoir. Les cas de maladie de Lyme ont maintenant augmenté de plus de 1000% en une décennie, les changements climatiques repoussant les limites d'un éventail d'agents pathogènes et de facteurs de risque vers le nord. Des populations d'espèces de moustiques exotiques susceptibles d'être porteuses de maladies telles que la dengue et la fièvre jaune se sont établies dans certaines régions de l'Ontario, selon des chercheurs. Les scientifiques craignent également que les changements climatiques n'augmentent les risques de maladies microbiennes associées à la contamination des aliments et au temps chaud. Il y a 15 ans, Justin Wood, étudiant en Ontario, a commencé à se sentir malade. Il a raconté qu'il a fallu environ 4 ou 5 ans pour obtenir un diagnostic. Quand il est arrivé, le diagnostic était rare, la maladie de Lyme. À l'époque, la maladie transmise par les tiques n'était responsable que de quelques centaines d'infections par année au Canada, selon les statistiques gouvernementales. L'expérience de M. Wood a au moins un point positif. Cela l'a mis sur la voie d'une carrière et il dirige aujourd'hui un laboratoire privé en Ontario appelé Genetics, qui se consacre aux tests de dépistage des maladies chez les tiques. Il a affirmé que son travail lui permet de rencontrer de nombreuses personnes lourdement handicapées à cause de la maladie de Lyme. C'est très, très grave et les symptômes peuvent être très, très divers, mais très, très débilitants. Santé Canada indique que les symptômes vont des éruptions cutanées et des maux de tête aux douleurs articulaires sévères et à la perte de mémoire. Dans de rares cas, cela peut entraîner la mort par infection cardiaque. M. Wood a déclaré que le nombre de détections de Borrelia burgdorferi, la bactérie responsable de la maladie de Lyme, avait récemment augmenté dans son laboratoire d'environ 0,5% à 1% par an. Cela ne semble pas grand-chose, mais l'éventail des tiques à pattes noires porteuses de la bactérie s'élargit. Elles deviennent plus actives et vivent plus longtemps, a-t-il déclaré. Cela signifie que de plus en plus de tiques naissent chaque année et que le nombre de tiques au Canada continuera d'augmenter, a expliqué M. Wood.
Il a déclaré qu'entre 50 millions et 175 millions de tiques arrivaient au Canada chaque printemps sur des oiseaux chanteurs migrateurs. Donc, vous additionnez en quelque sorte tout cela et vous avez plus de tiques, vous avez des tiques dans de nouveaux endroits, vous avez plus de tiques transportant des bactéries dangereuses et cela devient une sorte de problème croissant chaque année, a détaillé M. Wood. Les données de surveillance le soutiennent. Un rapport fédéral indique qu'il y a eu 3147 cas signalés de maladies de Lyme au Canada en 2021 contre 266 en 2011. Changement climatique. Cette augmentation s'est produite en partie à cause des changements climatiques qui ont contribué à l'augmentation de l'abondance et de la répartition géographique des populations de tiques à pattes noires dans le centre et l'est du Canada, précise le rapport, ajoutant qu'environ 1% des cas de maladie de Lyme au Canada ont été contractés à l'étranger. Les conditions météorologiques du Canada ont déjà servi de barrière contre de nombreuses maladies du temps chaud, comme la dengue, le virus Zika, le paludisme et la fièvre jaune, qui sont toutes véhiculées par certaines espèces de moustiques. Mais les conditions changent, a déclaré Victoria Ng, évaluatrice scientifique principale à l'Agence de la santé publique du Canada. Avec les changements climatiques, le temps sera plus humide, avec davantage d'événements météorologiques extrêmes, qui pourraient être des précipitations extrêmes, et les moustiques ont besoin d'eau pour pouvoir survivre, a expliqué Mme Ng. Mme Ng a noté qu'à Windsor, en Ontario, il y a désormais une population, en petit nombre, d'Aedes albopictus, connue sous le nom de moustique tigre, originaire des régions tropicales et subtropicales d'Asie. La santé publique de l'Ontario a annoncé la détection de la première population reproductrice d'Aedes albopictus à l'automne 2016 à Windsor. Une autre espèce exotique, Aedes aegypti, originaire d'Afrique, a également été détectée pour la première fois. Ces espèces de moustiques sont des piqueurs agressifs pour les humains et des vecteurs potentiels des virus de la dengue, du chikungunya, de la fièvre jaune et du Zika dans les régions les plus chaudes du monde, a indiqué l'agence. À l'époque, l'organisation avait déclaré qu'elle ne s'attendait pas à ce que l'une ou l'autre espèce survive à l'hiver ontarien. Toutefois, Mme Ng a raconté que les scientifiques ont non seulement vu des Aedes albopictus revenir toute l'année dans la région, mais ils les ont également observés à différents stades de leur vie. « Nous voyons les œufs de cette espèce particulière devenir des adultes, ce qui signifie qu'ils ont un cycle de vie complet et qu'ils se reproduisent d'année en année dans cette région du Canada », a déclaré Mme Ng. Elle a dit qu'il s'agissait d'un exemple d'une population de moustiques, en particulier ceux qui sont porteurs de virus exotiques, ayant le potentiel de continuer à rester établis, mais aussi de s'étendre géographiquement à cause du réchauffement climatique. Vous écoutez, avec les changements climatiques, les risques de maladies infectieuses s'étendent vers le nord. Un texte de Nono Chen de la presse canadienne paru le 27 mai 2024 dans Le Devoir. La préoccupation des maladies d'origine alimentaire. Le docteur Joe Vipond, médecin urgentiste et ancien président de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, a déclaré que le nombre de cas de maladies transmises par les moustiques a augmenté lentement au cours des 20 dernières années. Ce qui est inquiétant, c'est qu'à un moment donné, nous serons confrontés à des maladies comme la dengue ou le paludisme qui pourraient s'étendre jusqu'au Canada, a déclaré le docteur Vipond. Il a cité l'exemple de la Floride, où la dengue n'existait pas autrefois. Mais en 2023, le ministère de la Santé de l'État américain a placé deux comtés sous alerte aux maladies transmises par les moustiques après que 5 cas de dengue ont été signalés en moins d'un mois. Il faudrait des changements radicaux pour que la dengue devienne une préoccupation pour les Canadiens, a-t-il dit, ajoutant qu'il ne s'agissait pas d'une préoccupation actuelle, mais d'ici quelques décennies. Un article de 2019 paru dans la revue Relevé des maladies transmissibles au Canada indiquait que même s'il n'y avait aucune preuve de propagation de maladies au Canada via de nouvelles populations de moustiques exotiques, le problème nécessitait une réponse clinique et de santé publique prudente. Bien que le risque à court terme d'incursion et d'établissement de maladies exotiques transmises par des moustiques au Canada, facilité ou exacerbé par les changements climatiques, soit très faible, il est réalisable. Il a déclaré que le paludisme était particulièrement préoccupant parce que la maladie était autrefois endémique au Canada. Une menace plus actuelle est celle des maladies d'origine alimentaire associées au temps chaud. À mesure que les changements climatiques se poursuivent et ou s'intensifient, ils augmenteront le risque d'effets négatifs sur la sécurité alimentaire au Canada, allant d'un fardeau accru pour la santé publique à l'émergence de risques actuellement inédits dans notre chaîne alimentaire, a indiqué un article de 2019 dans le Relevé des maladies transmissibles au Canada par des scientifiques du Laboratoire national de microbiologie de Guelph, en Ontario. Il cite des études montrant une forte association entre l'augmentation des températures de l'air et diverses infections à la bactérie E. coli, à la salmonelle et aux bactéries Vibrio. La croissance, la survie, l'abondance et la diversité des agents pathogènes seront affectés par les changements climatiques tout au long de la chaîne alimentaire, indique le rapport. Les phénomènes météorologiques extrêmes et le réchauffement des océans compliqueraient également les effets sur la chaîne alimentaire et entraîneraient à terme davantage de maladies d'origine alimentaire, selon le rapport. La maladie de Lyme n'est pas le seul agent pathogène transmis par les tiques qui préoccupe les scientifiques, car les changements climatiques élargissent l'aire de répartition des porteurs. Un rapport publié par le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique en 2023 indiquait que deux types de parasites transmis par les tiques, Babesia odocoli et Babesia microti, étaient des agents pathogènes récemment apparus dans la province. Ils provoquent la babésiose, une maladie présentant des symptômes pseudo-grippaux. On peut s'attendre à ce que les changements climatiques facilitent la présence de ces maladies transmises par les tiques, peut-on lire dans le rapport. C'était « Avec les changements climatiques, les risques de maladies infectieuses s'étendent vers le nord », un texte de Nono Chen de la presse canadienne paru le 27 mai 2024 dans Le Devoir.